Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous retrouver sur RTL pour une nouvelle semaine d'échange et de partage. Soyez les bienvenus chez vous. Ici, ce sont nos différences qui nous enrichissent et qui nous relient les uns aux autres. Et si nous avons tous nos parcours, si nous avons emprunté des chemins singuliers, si nous nous sommes parfois pris les pieds dans le tapis de la vie, si nous avons bouffé la poussière, si nous nous sommes relevés, si nous marchons la tête haute ou les épaules baissées, bref, si ceci, si cela, ici on est tous les mêmes. On cherche juste à avancer, à partager parce que c'est toujours mieux ensemble et tout ça dans la bienveillance. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Aujourd'hui, avec vous bien sûr, 3210, les réseaux sociaux, on va parler de l'adoption. Chaque année, près de 10 000 demandes d'adoption sont formulées dans notre pays. Cependant, il est de plus en plus difficile d'adopter. En effet, l'année dernière, moins de 2 000 enfants français et étrangers ont été accueillis dans de nouvelles familles. Alors pourquoi l'adoption ressemble-t-elle à un parcours du combattant? Comment vit-on ces mois et ces années d'attente? Quelles sont les nombreuses idées reçues liées à cette démarche? Et comment les liens se tissent-ils quand un enfant arrive enfin dans un nouveau foyer? On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Perrignon, bonjour, merci d'être avec nous, Perrine.
Bonjour Flavie.
Perrine, vous êtes la maman de Timothée et de Pierre-Alix, deux petites bouilles adorables, adoptées en 2010 et en 2013. Et puis vous êtes l'auteur de cet ouvrage, C'est pas grave, t'as qu'à adopter, chez Michel Lafon. Pourquoi ce titre, Perrine?
Parce que c'est quelque chose qu'on entend au départ quand on apprend qu'on est stérile.
Ce qui a été votre cas suite à une maladie,
mon cas, suite à une leucémie. C'est quelque chose, les gens pensant nous rassurer nous disent souvent mais c'est pas grave, tu sais, tu pourras adopter. Sauf que c'est difficile à accepter déjà d'être stérile et que et qu'adopter c'est pas si simple.
Et puis vous parlez aussi du chemin de l'adoption comme un chemin de croix, un enfer pour les nerfs, une montagne à escalader pour devenir parent. Ça c'est un discours, ce sont des mots très forts qui vont forcément résonner dans ceux qui sont en train de traverser cette période aussi d'attente.
Oui, je vous dis, j'ai eu une leucémie. Pour moi, l'adoption a été plus dur mentalement, moralement que le cancer. Tellement c'est un enfer pour les nerfs, toutes les procédures, l'attente.
Et les difficultés pour adopter aujourd'hui, puisqu'il est plus difficile aujourd'hui d'adopter qu'il y a encore
Exactement, plus on avance, plus c'est difficile.
On va en parler avec vous, et puis on va en parler avec votre nouvelle meilleure amie, parce que visiblement, vous avez fait connaissance il y a 10 minutes, et puis ça y est, c'est parti. Fanny Cohen-Herlem, bonjour, merci d'être avec nous, Fanny.
Bonjour.
Fanny, vous êtes pédopsychiatre, et vous êtes auteur de l'ouvrage Adoption, la filiation du cœur, un ouvrage aux éditions Le Cavalier Bleu. On vous avait déjà reçu sur ce thème de l'adoption. Et on sent, vous, en tant que pédopsychiatre, très sensibilisé à ce sujet. On sent à chaque fois un intérêt, une curiosité pour chaque nouvelle histoire. On a l'impression qu'il est autant d'histoires qu'il est d'adoption finalement, Fanny.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Hein. Ce sont vraiment des parcours individuels. Alors, il y a des éléments qui sont communs, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un parcours qui est long pour tout le monde. C'est vrai que c'est un parcours qui est difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'adoptions à l'heure actuelle qu'il n'y en avait dans les années précédentes. Mais c'est également dû au fait non seulement qu'il y a moins d'enfants à adopter, mais aussi que la plupart des pays d'origine maintenant se dotent de lois qui protègent à la fois les enfants, mais également les parents, les futurs parents adoptifs, c'est très important ça de s'en souvenir, et qui protègent aussi les parents d'origine, de façon à tout ce qu'on a pu entendre de trafic d'enfants ou d'histoires un peu compliquées n'ait plus lieu.
Alors d'un côté c'est un bien, on l'entend, puisque les choses sont désormais maîtrisées en termes d'adoption.
Beaucoup plus.
Et en même temps, c'est effectivement une difficulté supplémentaire pour ceux comme Perrine qui ont besoin de tenir des enfants dans leurs bras et qui mettent tant de temps, pardonnez-moi, parce que vous, Perrine, vous avez mis 4 ans et demi à serrer votre premier petit garçon dans vos bras, Timothée, 1 an et demi pour le deuxième. L'un vient du Vietnam, l'autre vient de Russie, donc vous êtes allé à leur rencontre à l'étranger. Ça a été très long quand même entre cette envie et cette réalité.
Oui, parce qu'on n'est pas tout seul, et puis parce que l'adoption, j'ai l'impression, je ne sais pas au niveau des chiffres, mais je pense qu'on est il y a eu de plus en plus d'adoptants de couples, et il y a un engorgement en fait.
Alors on va se tourner vers Fanny Cohen-Sola. Est-ce qu'effectivement, Fanny Cohen-Herlem, est-ce qu'effectivement on est dans ce cas-là aujourd'hui?
Pas tout à fait, je suis désolée de vous contredire.
Il y a de moins en moins de couples adoptants.
En fait, il y a pas 10 000 couples en demande d'adoption, là il y a à peu près 7 000, 7 000 demandes d'adoption, ce qui est déjà pas mal, je dois dire, mais il y en a un petit peu moins effectivement, parce que les gens finissent par renoncer ou trouvent d'autres façons façon d'être parent ou d'avoir des enfants, et je parle de choses tout à fait légales, hein, bien entendu, et puis parce que dans la mesure où il y a moins d'enfants adoptables de par le monde, il y a une certaine réalité à laquelle on est confronté.
Mais ces enfants qui étaient justement candidats, ces enfants que l'on pouvait un jour adopter et à qui on pouvait offrir une vie meilleure aujourd'hui, que deviennent-ils puisque les lois sont devenues de plus en plus difficiles? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent sur le carreau aussi, Fanny?
Non, on peut dire plusieurs choses, ça dépend des pays, ça dépend des périodes. Je veux dire, à l'heure actuelle, malgré tout, les pays d'origine font de gros efforts pour augmenter l'adoption internationale. Ça se voit notamment en Colombie, où il y avait énormément d'enfants adoptables, et maintenant il y en a de moins en moins, où ce sont des enfants grands ou des enfants ayant des problèmes de santé. Et la plupart des pays d'origine, effectivement, proposent en adoption des enfants en fratrie, des enfants grands, des enfants ayant des problèmes de santé. Et du coup, ça pousse les candidats à réfléchir et parfois à renoncer. Et je trouve ça tout à fait légitime, parce que je comprends tout à fait que le désir des candidats, c'est d'adopter un enfant en très bonne santé.
Périne ?
Oui, nous, ce que je disais tout à l'heure à Fanny, c'est que nous, on comprend pas. Par exemple, on a l'orphelinat dans lequel on a adopté Timothée en Vietnam. Maintenant, avec la convention de La Haye, les enfants en bonne santé donc ne sont presque plus adoptables. Et pourtant, je connais une sœur qui travaille dans cet orphelinat, et elle me dit qu'il y a de plus en plus d'enfants, du coup, qui s'entassent. Ils sont même obligés d'agrandir l'orphelinat. Donc finalement, ces enfants, ils restent quand même dans ces institutions, parce que le Vietnam s'est pas enrichi d'un seul coup. Les enfants n'ont pas été adoptés nationalement d'un seul coup. Donc nous, en tant qu'adoptants, nous on a terminé notre parcours, mais je me dis, ceux qui arrivent là, ça on comprend pas. Je comprends pas.
On va en parler avec eux, parce que si vous souhaitez réagir, vous le savez, en effet, pour s'entendre, c'est aussi votre émission, vous y avez la parole. Donc si vous souhaitez poser des questions à nos invités, partager votre expérience aussi, on vous attend au 3210, c'est toujours une joie de vous entendre et d'apprendre grâce à vous. 3210, les réseaux sociaux, on vous attend pour parler de l'adoption en direct sur RTL jusqu'à 16h. À tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Nadège sur Facebook, merci Nadège de nous suivre en direct sur RTL. Mon mari et moi avons adopté notre fils le 29 mars 2007. C'était le premier jour du reste de notre vie. Dès les premiers regards, il a su nous montrer son caractère et sa force nous a permis de ne pas nous laisser submerger par l'émotion, de ne pas l'apeurer avec notre trop-plein d'amour qui ne demandait qu'à se manifester. Depuis, c'est le bonheur de la vie à trois. Qu'est-ce qui sont beaux ces messages? C'est vrai, Perrine, quand vous parlez vous-même ou quand vous écrivez sur Timothée et Pierre-Alix dans votre ouvrage que l'on peut trouver chez Michel Lafond, c'est pas grave, t'as qu'à adopter. Quels sont ces premiers liens? Comment se tissent-ils? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Après, on reviendra sur les difficultés de l'adoption, mais c'est vrai qu'au bout de tout ça, il y a quand même une histoire d'amour. Ça a été différent pour les garçons, d'ailleurs.
Oui, ça a été différent. Le premier, Timothée, donc on est arrivé à l'orphelinat au Vietnam. Il était dans les bras d'une nounou. Il était tout petit, tout chétif. Quand je l'ai pris, c'était mon fils, c'est instinctif, c'est maternel, je l'ai reniflé, j'ai senti son odeur, c'était mon fils, quoi.
Vous parlez d'un grand shoot d'amour, d'une odeur que vous ne connaissiez pas, mais qui pourtant vous était évidente.
Mais oui, je me la suis appropriée tout de suite, et en plus, j'ai eu la chance qu'il se blottisse tout de suite dans mes bras, et qu'il se blottisse aussi tout de suite dans les bras de son père. Donc c'était un enfant, je pense, qui avait besoin et qui a senti très vite, parce que on est retourné deux jours après, il n'y avait pas moyen mettre les pieds par terre, quoi. Trop peur de
Pierre-Alix, son petit frère que vous êtes allé chercher donc à Moscou, ça a été différent.
Ça a été beaucoup plus difficile, puisque lui, autant Timothée était dans un orphelinat à l'ancienne, où plein d'enfants, peu de nounous, donc peut-être un peu de carence affective. Pierre-Alix était dans un orphelinat à Moscou qui n'avait rien à envier aux crèches en France. Il y avait tout. Ils étaient très éveillés, ils avaient des nounous. Donc finalement, quand on est arrivé, on était un petit peu les étrangers. Donc à chaque fois qu'on arrivait, ils chouinaient, ils pleuraient, mais sans larmes. Mais ils montraient qu'ils n'étaient pas contents. Donc ça a été beaucoup plus difficile. L'attachement a été plus long. Nous, quand on le voit, c'est notre fils, mais comme les procédures étaient particulières, il fallait qu'on reparte, qu'on revienne. Oui. On n'était jamais sûr qu'au final, ce serait vraiment notre fils. Donc c'est là où c'est difficile, parce qu'on s'attache tout de suite. Et en même temps, on sait qu'on peut... C'est comme une femme qui accoucherait, à qui on prendrait son bébé, et on lui dit, je sais pas si je vais te le rendre, quoi.
Fanny Cohen-Herlem, vous êtes donc pédopsychiatre, auteur de l'ouvrage Adoption, la filiation au cœur, aux éditions Le Cavalier Bleu. Est-ce que les parents adoptants s'attendent justement à tout ce qui va se retrouver sur leur chemin avant qu'ils puissent véritablement ramener cet enfant à la maison?
Non, je crois pas. Je crois que les parents, les futurs parents sont quand même encore maintenant plein d'illusions. Savent que ça va être difficile, mais ne perçoivent pas combien c'est compliqué. Combien ils ont aussi besoin d'être accompagnés, parce que je crois que c'est vraiment une épreuve affective, effectivement, que d'être dans l'attente comme ça de l'enfant. Et moi, je m'attache aussi toujours à dire aux parents combien du côté de l'enfant, ça n'est pas simple non plus. C'est-à-dire que les enfants, ils sont pas en attente de parents. La plupart du temps, ils savent pas ce que c'est que des parents. Donc, que votre premier petit soit comme ça levé contre vous, c'est vraiment fantastique. Que le deuxième ne l'ait pas fait, ça n'est pas très étonnant.
On l'a compris.
Et du coup, mais je suis persuadée que vous l'aviez compris. Ouais. Mais lui, il l'a pas forcément compris. D'autant plus qu'il vous voyait aller et venir, puisque c'est le cas comme ça, qui se passe comme ça en Russie. Et du coup, les enfants ont plus de difficultés.
Et tout le monde s'adopte, Perrine.
Absolument. Oui, ah oui, mais c'est tout à fait. Nous, on adopte un enfant, mais l'enfant nous adopte aussi. Et Pierre-Alix a adopté facilement son père et son frère. Par contre, moi, forcément, j'étais une femme de plus dans son parcours qui allait pouvait peut-être l'abandonner encore une fois. Donc, c'est normal. J'ai compris. Il a été très difficile avec moi. Ça va maintenant. L'attachement est fait, mais ça a été long. Et c'est normal. Enfin, on était préparé à ce genre de réaction aussi. On savait pourquoi il pouvait être un peu comme ça réticent.
Alors, Fanny Cohen-Herlem, avant de se retrouver dans cette gestion de ces nouvelles émotions, avant d'essayer de tisser ce lien et de faire en sorte qu'il se consolide et qu'il soit réel et palpable, avant que la fiction ne soit possible, il y a tout un parcours du combattant, qui est un parcours principalement administratif aussi. Et ça vient. Alors, pas que. Expliquez-nous.
Pas que. Effectivement, pour pouvoir adopter un enfant en France, enfin, en France, quand on veut adopter un enfant, que ce soit un enfant pupille ou à l'étranger, il faut en passer par l'agrément. L'agrément qui est quelque chose qui est diversement perçu, mais je trouve que les parents ont bien compris en fait cette nécessité-là. C'est-à-dire que tout un chacun peut humainement se dire « je suis capable d'élever un enfant », mais c'est particulier parce que ce sont des enfants qui ont été abandonnés, qui ont subi des traumatismes, des carences. Donc, il est légitime, et les pays d'origine le demandent de plus en plus, que les candidats à l'adoption soient... alors, je trouve ce mot horrible, mais c'est quand même quelque chose de l'ordre d'une évaluation. Mais qui, la plupart du temps, est un accompagnement également. C'est-à-dire qu'il y a des entretiens avec l'assistante sociale, psychologue, éventuellement pédopsychiatre, pour parler avec les candidats, ceux qui ne sont encore que candidats, de leur désir d'enfant, de ce qu'ils imaginent de cet enfant, de comment ils voient la vie avec cet enfant, de ce qu'ils peuvent en comprendre. Et puis, on regarde aussi leur souplesse, leur capacité personnelle. Et tout ceci, à un moment donné, on se dit, enfin, on donne un avis, hein, qui n'est qu'un avis. Et c'est le président du conseil général qui décide si ces candidats auront un agrément ou pas.
On va se retrouver, si vous le voulez bien. Je sais, Perrine, que vous voulez réagir à ce que vient de nous dire Fanny. Avec vous, si vous le souhaitez également, 3210, les réseaux sociaux. Bien évidemment, on attend tous vos témoignages. Vous aurez la parole dans cette émission. Mais pour l'heure, allons danser un petit peu. À tout de suite avec vous.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Ah, merci pour votre fidélité, votre enthousiasme. À chaque fois que nous vous proposons un sujet, vous cherchez à nous joindre pour intervenir et illustrer aussi nos propos de vos expériences. Dans un instant, nous allons parler avec Olivier et Frédéric, qui sont en ligne et qui sont les heureux papas depuis très peu de temps deux petits garçons. Mais auparavant, Pérignon, vous vouliez revenir sur ce parcours du combattant de l'adoption.
Oui, moi je voulais revenir sur l'adoption en France et dire que... Fanny tout à l'heure parlait de la préparation. En France, c'est très inégal en fonction des départements. Nous, dans notre département, l'Aisne, il n'y a pas d'enquête psychologique, par exemple. On a juste deux entretiens. Donc, tout le monde n'est pas assez préparé. Et je pense qu'au contraire, moi, je suis tout à fait d'accord. L'évaluation, entre guillemets, est nécessaire. On ne peut pas partir comme ça dans l'adoption sans,
sans biscuit.
Sans biscuit, ouais.
Sans être préparé aussi.
C'est pas normal quelqu'un qui habite Rouen soit peut-être mieux préparé que quelqu'un qui habite Saint-Quentin comme nous, où il n'y a pas de service d'adoption quasiment.
Donc en fait, vous, Fanny Cohen-Herlem, vous nous expliquez que l'obtention, le temps d'obtention d'un agrément, c'est un temps nécessaire aussi pour des parents de se préparer et d'être accompagnés aussi dans ces différentes démarches, qu'elles soient administratives, psychologiques. C'est un temps nécessaire.
C'est fondamental.
Ce qui est intéressant aussi, ce que nous explique Perrine, c'est que parfois on est un peu lâché dans la nature, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On a le sentiment que les parents adoptants ne sont jamais lâchés. Et vous, vous êtes en train de nous expliquer que parfois le parent adoptant est complètement perdu dans la nature.
Nous, on est totalement lâchés, surtout dans notre département où il n'y a rien pour nous soutenir. C'est qu'il y avait juste une, il y a juste une secrétaire administrative. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, l'agrément, on se débrouille quoi. Si on veut adopter, vu qu'on
alors
peut pas
comment
adopter...
ça se passe par exemple, Fanny.
Je peux juste dire un mot. Effectivement, une fois l'agrément obtenu, la plupart du temps, effectivement, les parents sont dans la situation, enfin les futurs parents sont dans la situation que vous décrivez. Cela étant, il existe quand même des réunions qui sont faites par les conseils généraux. Quand ils les font et quand ils en ont les moyens. Il y a les associations de parents, c'est très important, les associations de parents qui aident les futurs parents, et puis les organismes autorisés pour l'adoption, par lesquels on passe, qui sont intermédiaires entre les enfants des pays d'origine et les candidats, qui sont censés, eux également, soutenir les parents. Et puis, il y a des choses privées, comme celle où je travaille, par exemple.
Voilà, cette association dont on parlera un petit peu plus tard, effectivement, et dont on donnera les coordonnées à nos auditeurs qui ont peut-être besoin d'être un petit peu aiguillés, d'avoir une boussole. Perrine.
Mais dans certains départements, oui, mais nous, dans un département comme l'Aisne, il n'y a vraiment rien.
Donc, ce que vous m'expliquez, c'est que vous aviez votre agrément, et à un moment donné, je veux adopter, je ne sais pas comment faire.
Et on va sur Internet. On trouve toutes nos réponses sur Internet, avec d'autres adoptants.
Vous êtes d'accord, Fanny? Voilà, oui, et c'est le partage d'expérience. Mais donc, c'est là où, effectivement, il y a quand même un problème.
C'est là où il y a vraiment un manque, parce que normalement, les conseils généraux sont débordés, donc je dis rien contre les conseils généraux, mais c'est le travail des conseils généraux et en principe du service adoption de pouvoir orienter les parents vers les différents intermédiaires qui vont leur permettre d'aller vers leur enfant.
Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça devrait se faire et avoir lieu. Si vous le voulez bien, on va parler avec deux jeunes papas. Frédéric, bonjour, soyez le bienvenu, merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL.
Merci Flavie, bonjour à vous, bonjour à vos invités et bonjour à Olivier.
Ah voilà, alors Olivier, c'est super, vous faites mon boulot, donc c'est génial. Olivier, bonjour. Est-ce que vous êtes là, Olivier?
Oui, je suis là.
Merci Olivier d'être là. Je vous remercie tous les deux d'être intervenus et puis d'avoir appelé le 3210, parce que c'est vrai que c'est seulement quand on partage nos expériences aussi qu'on arrive à parfois prendre un petit peu de hauteur par rapport à des situations. On parle d'un parcours du combattant. Fanny nous expliquait il y a un instant que l'obtention de l'agrément, c'est un temps nécessaire pour se préparer à l'adoption. On reviendra pas forcément dessus, on n'est pas dans un débat. Mais vous, ça a duré 8 ans pour chacun d'entre vous. On a quand même le temps de réfléchir, Frédéric.
Oui, tout à fait. Nous, ça s'est très bien passé avec notre conseil général.
Oui.
On a eu une première réunion d'information. On était prêts, on s'était décidé. Donc voilà, on s'est lancé tout de suite dans l'agrément. Et il nous a fallu pour le premier agrément à peine un an pour l'avoir. On a eu assistante sociale et psychologue. Et en parallèle de ça, nous, on s'est inscrit à une association. Je vais citer le nom, c'est une association nationale. C'est enfants et familles d'adoption, qui est une branche dans chaque département. Donc nous, on s'est inscrit dans la Sarthe. Et au cours de ces 8 ans, on a participé à des colloques, à des réunions, à des entrevues, mais aussi à des réunions entre postulants à l'adoption et parents ayant adopté avec des enfants qui viennent de tous les pays. Donc il y a la galette des rois, il y a le pique-nique, enfin, etc. Et ça permet d'échanger, et ça permet aussi aux futurs adoptants de pouvoir travailler leur adoption. C'est super important, ça. Il faut prendre en main son adoption pour que ça se passe bien.
Olivier, je suis persuadée que vous avez quelque chose à rajouter. Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un instant. On va prendre vraiment le temps de nous installer et de vous donner la parole sur l'antenne d'RTL. Vous ne bougez pas, parce qu'on a envie aussi que vous nous racontiez et le petit Sacha et le petit Timéo. On va parler d'amour dans un instant avec vous sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, Frédéric, vous venez de nous éclairer aussi sur ces 8 ans de procédure pour pouvoir adopter le petit Sacha. Olivier, vous êtes avec nous, vous vivez à Bourges. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vient de nous expliquer Frédéric, justement ?
Alors complètement, c'est vrai que notre parcours est un petit peu identique à celui de Frédéric en fait. Nous par contre, nous sommes passés par 4 ans de fécondation in vitro avant, donc en fait ça fait donc 12 ans. Donc l'issue a été est agréable au bout de 12 ans. Donc c'est vrai que c'est très très long, dur à gérer, même si effectivement ça nous laisse le temps de nous y préparer. Donc déjà nous, passant par une fécondation in vitro, il a fallu faire la démarche de l'adoption, ce qui n'est pas forcément évident. Mon épouse était plus prête que moi, je dirais. Et une fois que la démarche a été, je dirais, bien engagée de mon côté, que mon choix a été fait aussi, donc nous avons donc décidé de ce choix. Et puis bon, donc nous avons donc dû attendre 8 ans, parce que dans le département du Cher, peu de bébés ou pas de bébés étaient adoptables. Donc c'est très très long. Donc renouvellement d'agrément, parce que l'agrément est valable 5 ans.
Voilà, oui. Donc on repart tous les 5 ans, on repart pour un tour, une nouvelle forme d'évaluation.
Voilà, tout à fait. Donc on repasse devant les psychologues, devant les assistantes sociales, devant les visites à la maison, les visites au conseil général.
Est-ce qu'on ne se sent pas, Olivier, Frédéric, et je vais me tourner également vers Perrine qui va intervenir, parce que vous savez, les dames ont aussi leur place.
Bien sûr.
Non, je plaisante. Non. Merci, messieurs. Non, mais ce que je veux dire, Olivier, Frédéric, et puis vous, Perrine, est-ce qu'à un moment donné, par exemple, cette histoire de repartir pour un tour, pour réobtenir un agrément d'adoption, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de se rendre éligible à donner de l'amour? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi, ça fait partie du processus, je l'entends, mais est-ce qu'on ne souffre pas à un moment donné de dire, mais moi, j'ai juste de l'amour à donner à un enfant et c'est trop long, quoi, parce que c'est 12 ans, on a largement le temps de s'y préparer, messieurs.
Oui, bien sûr, mais c'est un processus, je dirais entre guillemets, presque normal. Je l'ai compris, moi, après l'arrivée de Sacha, en disant, mais effectivement, on peut pas non plus permettre à un pays de donner un enfant à un couple sans qu'il y ait des garanties derrière. Donc c'est cet agrément et puis ces enquêtes qui sont faites ou par les OA, les organismes agréés pour adopter, ou l'Agence française de l'adoption, qui est un organisme d'État par lequel nous nous sommes passés pour adopter, ils refont des enquêtes derrière. Et je trouve ça absolument normal. Alors bien sûr que c'est long, bien sûr. Quand on est dans le processus de l'adoption, c'est toujours trop long. Mais après l'arrivée de l'enfant, on se dit, oui, mais c'est normal.
Oui.
C'est normal.
C'était nécessaire.
C'est nécessaire, voilà. C'est nécessaire. Il faut s'assurer que l'enfant va être confié à un
dans
couple.
Dans un foyer qui soit vraiment apte à le recevoir, voilà. Et qui lui puisse lui procurer de l'amour, tout à fait.
Tout à fait. Et au contraire, je trouve même qu'au cours de ces 8 ans, même si on n'a pas encore eu de présentation d'enfant, cet amour, on sait que qu'il est possible de le donner et il se renforce, il se construit. J'irais même jusqu'à dire qu'on renforce notre couple aussi à travers cette épreuve.
Alors justement, j'allais vous demander, messieurs, parce que c'est vrai que un homme, et je vous remercie vraiment d'ailleurs d'intervenir et l'un et l'autre dans cette émission, un homme vit les choses peut-être différemment. Olivier, vous nous précisiez que votre épouse, qui elle a vécu 4 ans aussi de fécondation in vitro sans succès, vous l'avez vécu tous les deux, mais elle l'a vécu aussi de l'intérieur. Alors, est-ce qu'effectivement vous êtes, pour nos auditeurs qui sont dans ce parcours au milieu du chemin, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'à un moment donné, il faut être extrêmement uni aussi en couple face à ces désillusions parfois et ces déceptions?
Alors c'est clair que déjà passant par une fécondation in vitro où les traitements passent beaucoup plus pour madame que pour monsieur, donc c'était très très compliqué, très très dur, très très éprouvant.
Je comprends.
Donc effectivement, ça a été très dur pour elle. Donc il est vrai qu'un couple doit être très uni parce que c'est une épreuve qui est quand même très très compliquée, quoi, pas évidente à vivre.
C'est traumatisant parce que effectivement nous on est aussi passé par la fécondation in vitro qui a été un échec absolu et c'est effectivement traumatisant pour la femme, mais psychologiquement c'est aussi traumatisant pour l'homme.
Hein. Bien sûr.
Ah ouais.
Non mais ça, il faut être ensemble. On va se tourner vers Perrine. Perrine, on va se tourner vers Perrine. Vous êtes venue avec Renaud aujourd'hui qui n'interviendra pas, mais qui est quelqu'un de très présent aussi et qui a été à plein de moments difficiles de votre existence. Ça se vit ensemble aussi.
Ça
ce
se vit ensemble, surtout qu'au départ on est moi, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt moi qui n'étais pas tellement pro-adoption. Je n'arrivais pas à m'y faire. Mon mari, lui, est parti tout de suite. Pour lui, c'était sûr. Donc, on n'est pas toujours au même niveau. Donc, il faut se comprendre, il faut s'écouter un peu. Et puis
se soutenir dans les moments difficiles.
Et se soutenir
aussi.
Parce que ça a mis des années avant que je... Donc, finalement, ce délai d'attente, comme disait Olivier, c'est long. Mais en même temps, on se prépare aussi à une adoption qui est quand même... un moyen de devenir parent assez particulier aussi. Il faut en tout cas, moi, le temps que j'ai attendu, même j'aurais presque, si l'enfant est arrivé plus tôt, ça aurait peut-être pas
fonctionné la même façon.
J'aurais pas été peut-être aussi prête. Voilà.
Fanny Cohen-Herlem.
Oui, je voulais juste ajouter un mot par rapport à cette solidité du couple pour dire que bon, on peut pas faire des on peut pas prédire l'avenir, mais c'est vrai que également dans l'évaluation, on essaye de d'entendre quelle est la solidité du couple qui est présent à nous, parce que on sait que l'arrivée d'un enfant, c'est tellement fort émotionnellement, parfois c'est tellement difficile que, alors en tant que pédopsychiatre, si vous voulez, j'ai déjà vu des couples qui après l'arrivée de l'enfant se défaisaient.
Oui. Beaucoup. Moi, j'en ai croisé. Ouais.
Donc, je pense que c'est tellement grave pour un couple d'éclater, et également, c'est tellement grave pour cet enfant-là qui est là. On essaye de prendre toutes les précautions possibles. Et donc, encore une fois, la préparation, les préparations, c'est fondamental aussi pour ça, pour bien mesurer ses capacités personnelles et ses capacités de couple.
Un message de Stéphanie. Ma Margot est arrivée dans notre vie après de longues années d'attente. Après tant de peines, de déceptions et d'épreuves, elle fait notre bonheur, c'est notre soleil. Oui, c'est un parcours du combattant, car on a l'impression d'avoir à se justifier sans arrêt. On en arrive à se demander ce que l'on a fait de mal pour avoir autant d'enquêtes auxquelles il faut faire face. Mais au bout du chemin, quel bonheur. Bon courage à tous les couples en attente. Vous verrez, ensuite, on oublie tout dans les yeux et dans les rires de son enfant. Frédéric, Olivier, on va vous retrouver dans un instant. Vous allez nous expliquer ces premiers instants pour vous aussi en tant que papa quand vous avez rencontré vos enfants. A tout de suite sur RTL.
RTL. Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Et pourtant, c'est un parcours du combattant. On en parle aujourd'hui, l'adoption, avec Olivier et Frédéric qui sont toujours en ligne avec nous. Et puis Fanny Cohen-Herlem et également Périnion qui sont dans notre studio. Messieurs, Frédéric, Olivier, racontez-nous cette première rencontre. Le moment où on a le sentiment peut-être que tout bascule. Est-ce que l'amour est évident, Frédéric?
Non, pas du tout. Ça a été une grosse claque. Nous, quand on a rencontré Sacha la première fois, donc il avait presque 5 ans.
Enfin, voilà, il était grand déjà. Hein,
ouais,
attention.
Il était déjà un petit peu grand.
Il vient de Russie, Sacha.
Il vient de Russie. Et donc on arrive à l'orphelinat. Je vous passe les détails administratifs. On arrive dans une grande pièce avec un petit garçon au milieu tout seul.
Super.
Et puis il y a avec moi mon épouse, l'interprète, la responsable de l'AFA en Russie, la directrice de l'orphelinat, la nounou, deux dames de l'aide sociale à l'enfance, le médecin externe à l'orphelinat auquel on avait le droit de faire appel. Et on nous dit, eh bien, jouez, soyez naturels et on va voir comment ça va se passer.
Allez. Et on roule ma poule.
C'est vachement compliqué d'être
bien
naturel. Ça fait 7 ans qu'on attend. On nous présente un petit garçon. Il nous regarde timidement. On lui dit, va dire bonjour. Il vient. Il ouvre des grands yeux. Il fait un grand sourire. Il ouvre les bras. J'en pleure encore.
Oui, j'entends.
Et
ça
voilà
en fait
quoi.
Des choses. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Frédéric, la première fois que vous l'avez vu, en tout cas qu'il vous a ouvert les bras, parce que vous aviez attendu ça pendant 8 ans.
C'est plein d'émotions.
Bien sûr.
On se dit, c'est la fin du parcours, quoi.
Ouais, on est arrivé.
C'est la fin du parcours. On est arrivé.
Olivier, vous pleurez aussi, parce que moi aussi, là, on s'y met tous, donc c'est formidable.
Oui.
Et on parle de bonheur, hein. Et on parle de bonheur, évidemment. On peut pleurer.
Des larmes de bonheur.
Bien sûr, on les partage avec vous, Frédéric.
Après, je m'excuse, Olivier, je reprends un peu mes esprits.
Je vous en prie, Frédéric.
Je dis que c'est une claque, parce que donc, ce petit garçon vient vers vous, il vous fait une bise, il vous embrasse, il embrasse ma femme de la même façon, et puis derrière, il va embrasser le médecin de la même façon.
Ouais, je comprends.
Donc là, on voit bien que... il sait pas ce qui se passe, et puis nous, là, je lui dis la claque, parce qu'on se dit, au départ, il vient pour nous,
oui.
Et puis boum, il va voir le médecin, il embrasse le médecin de la même façon. Donc, c'est une réaction, quoi. Et après, moi, il m'a fallu une dizaine de minutes, un quart d'heure, le temps de... Je me suis mis à genoux avec lui, j'ai joué un petit peu, et puis, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je suis rentré dans cette bulle, et c'est passé, quoi.
Olivier?
Oui, ben je comprends tout à fait. Moi, ça m'émeut beaucoup ses propos m'émeut beaucoup, puisque bon, c'est un petit peu du même genre. Bon, nous, c'est reste un petit bébé du département du Cher. Donc, par contre, nous, c'était un petit peu bizarre. Donc, en fait, nous avons reçu un courrier un jeudi entre une facture et une publicité. On avait un courrier du conseil général nous disant qu'on devait se présenter le lundi matin à 9h au conseil général parce qu'on nous présentait un petit garçon. Donc, c'était un petit peu surprenant. Donc, on a eu 3 jours pour à cogiter, à réfléchir, à se retourner, à se demander comment il était, petit, grand. Bon, ceci dit, étant donné que c'était un petit enfant pupille de l'État, bon, il avait 2 mois. Donc, bon, on s'attendait à avoir un petit bébé, effectivement. Donc, nous sommes rendus au conseil général. Avec la personne, nous avons donc rencontré la personne qui suivait notre dossier. Et après environ 1 heure de discussion, elle nous a donc emmené à la pouponnière du département pour nous présenter ce petit garçon qui nous a pas été présenté tout de suite, en fait. Il nous a été présenté au bout d'un quart d'heure, 1 minute, puisque nous avons rencontré la directrice de la pouponnière. Et c'est vrai que nous n'avons pas trop écouté ses propos parce qu'on était tellement impatients de rencontrer ce petit garçon. Et au bout de 20 minutes, on nous a dit, bon, mais écoutez, on vous l'amène, on vous le présente. Et là,
Oh, à tous 6 mètres, les garçons, là.
Non, c'est vrai que...
J'entends. Je comprends. Alors,
la porte est ouverte et il est arrivé dans les bras d'une petite jeune fille qui s'est occupée de lui les 2 premiers mois de sa vie. Et là, c'était le coup de foudre.
Pour ce petit Timéo qui vous rend heureux aujourd'hui.
Je pense qu'il était plus beau que ce qu'on imagine, en fait.
Bah oui, j'imagine. Ça, je comprends. Fanny Cohen-Herlem, vous êtes vous aussi touchée, puis vous avez le sourire, parce que c'est vrai, messieurs, que c'est tellement bon, parce que ce sont des larmes de joie et de bonheur qu'on partage avec vous.
C'est des très belles rencontres. Je voulais dire un mot, justement, à propos de la préparation ou de la non-préparation des enfants, parce que ça aussi, c'est quelque chose que les
parents... Parce que là, on voit côté parents, mais côté enfants, c'est différent.
Que les parents commencent à entendre maintenant. C'est-à-dire que les pouponnières en France, ça va, les enfants sont préparés, c'est-à-dire qu'on leur a dit qu'ils allaient avoir un papa et une maman, on leur a parlé de leur abandon, dont ils ont été l'objet, donc ces enfants n'arrivent pas
ils ne sont
comme
pas vierges de tout.
Voilà.
Et on n'a pas effacé un disque dur.
On n'a pas effacé quoi que ce soit, et surtout, ils ont été préparés et on leur a parlé de leurs futurs parents.
Oui.
Quant aux enfants qui sont nés à l'étranger, la préparation, elle dépend complètement du pays. Elle est très très inégale. Il y a des efforts qui sont faits, mais il faut savoir aussi que ses parents, que les enfants, comme par exemple ce petit garçon en Russie, effectivement, on lui dit tu vas voir un papa et une maman, il sait pas ce que c'est. Donc on lui a dit tu vas voir des gens très gentils, tu peux les embrasser si ton papa et ta maman, il sait pas qui c'est. Donc c'est vrai que les parents, ils sont aussi confrontés à ça et c'est pas évident. Mais les enfants aussi, on doit vraiment penser aux enfants et à ce que ça leur fait.
Frédéric, vous vouliez rajouter quelque chose rapidement, s'il vous plaît ?
Oui. Simplement, moi, je voulais dire que on ne s'est pas présenté à Sacha la première fois qu'on l'a vu comme étant ses parents, puisque on prend la décision d'adopter ce petit garçon qu'à la fin du premier séjour. Donc pour lui, on était des gens qui venaient, on était gentils, on a passé du temps avec lui, mais à aucun moment on l'a appelé, on s'est appelé entre nous papa maman. Lui, au bout de 2 jours, nous a appelé papa maman.
Ça venait de lui, en fait.
Lui, voilà, c'est ça. Et en revanche, la préparation, on ne sait pas s'il y a eu une préparation à l'adoption près de Sacha au moment de notre première entrevue. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'à partir de ce moment-là, pour notre deuxième voyage, il a été préparé, puisqu'on a envoyé des albums photos avec la famille, la maison. Et quand on est revenu au mois de décembre 2014, les albums photos, ils avaient été feuilletés, ils étaient cornés, etc. Donc, il les a regardés. On avait fait des légendes en français et en russe pour dire le grand-père, la grand-mère de papa, la grand-mère de maman, enfin, bref. Et donc là, il a été préparé. Il savait. Il nous attendait pas forcément parce qu'il savait pas exactement quand est-ce qu'on revenait. Mais il avait pris. On s'est rendu compte au deuxième voyage qu'il avait pris conscience d'une évolution de sa vie, quoi. Que il se passait quelque chose. Que il y a des choses qui allaient changer et que effectivement maintenant il pouvait nous appeler papa maman.
Frédéric, Olivier, c'était bon de vous entendre et je vous remercie aussi de la confiance que vous nous accordez en témoignant avec autant d'émotion dans En effet pour s'entendre. Vous embrasserez Timéo et Sacha et puis vos épouses bien évidemment.
Plaisir.
Et puis restez à notre écoute parce que dans un instant évidemment Perrine, vous allez pouvoir réagir à ce qui vient d'être dit et puis on va appeler Paul France, c'est une grand-mère. Elle a plein de choses à nous raconter parce que il y a l'adoption, il y a la première rencontre messieurs et puis après il y a toute la suite aussi et c'est une façon de se projeter dans l'avenir. On vous embrasse Olivier, Frédéric. Eric. Prenez soin de vous et de votre famille. Et puis merci.
On vous embrasse.
Merci vraiment de nous avoir fait confiance.
Merci à vos émissions.
Merci à vos invités. Merci Frédéric.
Merci pour votre confiance.
Bon courage et bonne vie à Timéo.
Merci de votre côté aussi. Merci beaucoup.
Au revoir, messieurs.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Périnuon, vous aussi, vous avez eu votre larme à l'œil ou pas quand vous avez écouté Olivier et Frédéric? C'est vrai qu'ils étaient touchants quand même dans leur
oui,
parcours et dans l'expression de leurs émotions.
Très, très touchant. Ce qui est drôle, c'est que moi, non, j'ai jamais versé de larmes ni à la rencontre ni en y repensant. C'était quelque chose qui me... Je sais pas, je suis peut-être pas comme ça non plus.
Mais
simplement.
Non, mais c'est surtout que chacun vit son histoire comme il l'entend et avec
donc,
sa nature.
Non, comme je l'ai pas vécu comme ça.
Est-ce que vous êtes retrouvés dans leur parcours à ces messieurs qui nous ont fait confiance pour intervenir sur cette enquête ?
Notamment celui qui a adopté en Russie, ça s'est passé de la même façon avec Pierre-Alix, Frédéric. Il était là, on nous l'a mis au milieu d'un tapis, on était observé par toute cette ribambelle administrative. et alors nous, par contre, donc c'était pareil, on était un peu... C'était notre fils, mais on était sur la réserve. Et il n'a pas été préparé du tout, par contre, à la parentalité, entre guillemets, au papa, maman. Et on a dû partir après, comme Frédéric. Et on nous a dit, ne laissez pas de... On avait rapporté des albums photos. On nous a dit, c'est pas la peine de les laisser. C'est pas la peine de laisser de jouer non plus. On leur donnera pas. Donc, je comprends.
Donc, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas été préparés à votre rencontre.
Ils n'ont pas été préparés. Et c'est pour ça que c'est important de savoir, pour ceux qui sont encore dans le parcours et qui vont peut-être avoir une rencontre comme ça, préparez-vous à ce que l'enfant ne soit pas préparé à vous rencontrer. Puisque c'est ce qui s'est passé pour nous. Et l'attachement, non, c'est pas toujours la belle histoire comme dans les films. L'attachement, il faut que si l'enfant n'est pas préparé, pour lui, il n'a aucune notion de parentalité.
Un message d'Alexandre sur Facebook. Avec mon épouse, nous sommes en liste d'attente depuis un an et demi pour une adoption en Colombie. Et rien qu'à entendre ces deux hommes parler, eh bien, moi aussi, je pleure. On attend qu'un jour le téléphone sonne et nous dise c'est bon. La rencontre, on se la fait dans notre tête et le jour venu sera juste magique. Alors, il est normal, Fanny Cohen-Herlem, de se faire cette rencontre et puis d'y penser. En plus, on a tellement le temps d'y penser, parfois 8 ans. C'est important de savoir précisément, de connaître toutes les éventualités, en tout cas un maximum d'éventualités, pour savoir y répondre, parce que c'est une aventure à deux, mais c'est quand même le parent qui donne le là auprès de l'enfant pour établir cette relation de confiance.
C'est sûr que ces rencontres sont complètement différentes pour tout un chacun. Ça dépend de ce que les parents ont en tête, ça dépend de ce qu'on leur a dit ou pas dit aux enfants, ça dépend de ce que pensent aussi les personnes qui s'occupent de l'enfant, c'est-à-dire s'ils trouvent que les parents qu'on leur a présentés, ça sera vraiment de bons parents, ou bien s'ils sont plus réservés. Ça dépend de l'attachement que l'enfant aura eu avec les nounous qui prenaient soin de lui. Donc tout ça intervient et on n'en a pas la maîtrise. Donc c'est certain que les parents, les futurs parents, doivent se dire, on va à la rencontre d'un petit étranger, on ne le connaît pas, ou on en sait quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'il connaît de nous. Et je veux dire, quand on connaît pas quelqu'un, on lui saute pas forcément tout de suite dans les bras. Donc voilà, c'est simplement ça. Ça peut être une belle histoire d'amour comme celle que Perrine racontait tout à l'heure, bien sûr, avec un tout petit bébé. Mais moi, j'ai vu des petits bébés qui étaient réservés à une rencontre avec des parents.
Et pourtant, après, le lien se crée.
Absolument. Mais la première rencontre, c'est pas forcément dans l'amour fou.
On va en parler avec Pôle France, parce que c'est vrai que avoir un enfant, je ne sais pas moi Perrine, avoir un enfant, quel qu'il soit, adopté, pas adopté, c'est une projection quand même dans l'avenir. Est-ce que vous vous projetez, vous, genre dans 30 ans avec vos enfants? Vous, si jeune, si belle. Non, mais parce qu'ils sont petits encore.
Oui, ils sont petits.
Parce qu'on fait des enfants quand même à un moment donné aussi pour regarder devant et pour se dire un jour viendra. C'est pour l'éternité. On va en parler avec Pôle France. Pôle France, bonjour, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour.
On avait très envie de vous entendre sur cette antenne. Vous me permettez d'ailleurs de donner votre âge?
68.
Vous avez 68 ans. Vous nous appelez d'Aix-en-Provence. Alors, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que vous avez une très belle histoire de famille à nous raconter. Une famille qui est née sur ces fameuses rencontres dont on parle depuis le début de l'émission, qui sont ces rencontres d'adoption.
Oui.
Vous êtes grand-mère aujourd'hui?
Je suis grand-mère, de deux enfants de 11 et 7 ans et un troisième à venir en octobre.
Oui.
Et ce qui est encore plus joli, c'est que ça sera le jour des 35 ans de mon fils, en principe. Donc ça, c'est vraiment encore une boucle qui se fera parce que Moi, ce que je voulais dire, c'est que la boucle se fait vraiment quand on a à nouveau des petits-enfants. D'enfants adoptés, on a vraiment la famille qui s'est faite au maximum. Voilà.
Ce qui est extraordinaire, c'est, on n'a pas beaucoup de temps, mais on voulait aussi terminer là-dessus, c'est que vous ne pouviez pas avoir d'enfants, Paul. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un moment donné où on se dit, bon, comment envisager l'avenir? Et aujourd'hui, vous êtes une maman heureuse et une grand-mère aussi extrêmement épanouie grâce à vos petits-enfants.
Ah oui, je vis que pour eux. Avec mon mari, on fait tout pour qu'ils soient heureux, pour que nos enfants soient contents. Mais disons que, bon, nous, disons qu'au démarrage, on pouvait avoir des enfants, puis on n'en a pas eu, et tout de suite. Donc après, moi, la première chose que j'ai faite, c'est de me dire, je vais avoir des enfants adoptifs. Ça ne posait pas de problème. Et quand on les a eus, j'ai retrouvé un peu dans la façon dont parlaient les autres. Oui. Il y a 38 ans, c'était 39 ans, pardon. Ce n'était pas comme maintenant. C'était pareil, quoi, finalement. Et là, maintenant, avoir des petits-enfants, on retrouve ce qui est beau. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est beau, c'est le jour où on adopte des enfants, on voit nos petits-enfants, on voit nos enfants, donc. Oui. Mais le jour où on a les petits-enfants, on voit les enfants comme ils sont nés ce jour-là.
Je comprends.
Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'inoubliable. Parce que on voit vraiment nos enfants tels qu'ils sont nés. Ils ont un peu des deux, ils ont un peu de la mère, du père, donc de mon fils et de ma belle-fille. Mais surtout, mon petit-fils ressemblait tellement à mon fils quand on l'a eu, qui avait 3 mois, que là, on voit vraiment ça, quoi.
C'est formidable. En tout cas, vous les embrasserez. Et je vous remercie, oui, Paul France, d'avoir bouclé la boucle avec nous aujourd'hui, en nous donnant votre discours de grand-mère.
Moi, j'appelle ça la boucle est bouclée. Voilà,
on vous embrasse. On vous embrasse. Merci beaucoup.
Merci.
Paul France.
Au revoir.
Plus RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, le temps file avec vous, nous sommes très en retard. Pérignon, je vous remercie d'être venu. Fanny Cohen-Herlem, merci également. Vos ouvrages sont sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre confiance. Demain, on parlera des régimes. On va évaluer tous les régimes si célèbres. Justement, on se demandera si ça marche. Ce soir, ne ratez pas la grande soirée consacrée à Laurent Voulzy, Alain Souchon sur RTL. Éric Jean-Jean sera au Palais des Sports et vous fera profiter comme si vous y étiez justement du début du concert. Merci pour votre confiance. Je vous embrasse. À demain.